Notre Dieu patiente et nous libère de nos liens, afin que nous soyons des serviteurs utiles. C'est le titre que j'ai voulu donner à ce message. Et je vous propose de lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, Luc, chapitre 13, au verset 6. Je lis dans la nouvelle Bible seconde. Luc, chapitre 13, verset 6. Il disait aussi cette parabole. Donc c'est Jésus, bien sûr. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il va y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je creuse tout autour et que j'y mette du fumier. Peut-être produira-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Il enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Quand il la vit, Jésus l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné parce que Jésus avait réalisé cette guérison pendant le sabbat, disait à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous, pendant le sabbat, ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire ? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat ?» Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient pris de honte, et toute la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. On a donc là 2 textes. Le premier est une parabole. Elle met en scène un homme propriétaire d'une vigne, et qui avait un figuier planté dans sa vigne. Jésus ne précise pas si ce figuier était planté depuis longtemps, ni qui l'avait planté, pour se concentrer sur le problème de ce figuier. Sur 3 années consécutives, aucune figue. Alors cet homme donne l'ordre à son vigneron de le couper, puisqu'il occupe inutilement la terre. Ce mot « inutilement » est certainement un des mots-clés, je pense, de cette parabole. Dans 2 Timothée 2, verset 20, 2 Timothée 2, verset 20 à 23, Paul écrit, et ça a été cité ce matin dans le culte, pour ça je vous dis vous avez tout fait, « Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des objets d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble, les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie en se séparant de ces derniers, il sera un objet pour un usage noble, consacré, utile à son maître, propre pour toute bonne œuvre. » On voit que dans ce passage, Paul exhorte à se purifier de certaines choses comme condition pour être utile au maître. Et dans ce même passage, juste après, Paul exhorte Timothée à fuir un certain nombre de penchants qu'il appelle les convoitises de la jeunesse, et aussi à repousser les débats extravagants et ineptes. Paul ne précise pas quelles sont ces convoitises de la jeunesse, mais ce sont des convoitises qui créent des liens, qui peuvent très tôt dans la vie d'un homme le rendre inutile pour le maître, sans fruit. On peut y voir, par exemple, les addictions de toutes sortes, qui sont initialement la conséquence de convoitises auxquelles on n'a pas résisté, et qui deviennent des pièges, dont on est bien souvent incapable de sortir. La liste en est longue. Il y a, par exemple, toutes les formes d'addiction sexuelle. Cette addiction est une composante majeure de notre monde, source d'un énorme business, mais également d'un grand gâchis, pour soi-même et pour les autres. Les addictions à caractère sexuel peuvent revêtir diverses formes, comme vous le savez. La recherche perpétuelle de la séduction. Dieu nous a fait un merveilleux cadeau avec la sexualité. Cette rencontre d'un homme et d'une femme, source de bonheur et de plaisir, vécue dans le don total de soi et la fidélité. Satan a fait son œuvre de dévoiement au sein même de ce merveilleux cadeau. Au lieu de jouir du bonheur, de la fidélité, les hommes recherchent leur satisfaction dans des conquêtes incessantes. Les conséquences en sont des couples et des familles détruits, avec son lot de souffrances et de blessures qui rejaillissent inévitablement sur les enfants. L'addiction à la pornographie en est une autre. C'est la forme plus solitaire de ce dévoiement, surtout masculine, mais elle n'en est pas moins lourde de conséquences, comme une vision faussée de la femme, considérée comme un objet de consommation, même si cette consommation n'est que virtuelle. Mais aussi le sentiment de culpabilité, l'auto-accusation et la perte de communion avec Dieu. Mais il y a aussi bien d'autres types d'addictions que celles liées à la sexualité. L'addiction à l'alcool est aussi un lien très fort pour certains hommes et parfois aussi pour certaines femmes. Lien dont il est très difficile de se défaire. On en connaît les conséquences. Dégradation de la santé, violence conjugale, déchéance sociale et corporelle, et là aussi très souvent éclatement du couple, et toute une cascade de ruptures familiales. L'amour de l'argent est aussi une addiction qui mobilise l'énergie et le temps de la personne qui s'y adonne et l'éloigne dramatiquement du royaume de Dieu et de ses priorités. La recherche du pouvoir, qui va souvent avec celle de l'argent, mais pas toujours, la satisfaction de l'ego pouvant être le moteur principal, avec ses fruits sous forme de vanité et d'orgueil, et l'écrasement des autres. Paul cite aussi les débats extravagants et ineptes. C'est plutôt du domaine des idées, des pensées communes de ce monde, dans lesquelles on peut tomber jusqu'à perdre tout repère spirituel. On suit la pensée générale de ce monde, de ses intellectuels, des médias, qui prend la place dans nos esprits de la pensée de Dieu. Ces débats peuvent affecter aussi l'Église, la détournant de sa mission première de glorifier le Seigneur et de proclamer sa parole. Mais revenons à notre figuier. Son sort semble réglé, coupe-le, dit le maître, puisqu'il est inutile. Et là, intervient le vigneron. Laisse-le encore cette année, le temps que je creuse tout autour et que j'y mette du fumier. Peut-être produira-t-il du fruit à l'avenir. Le vigneron se fait l'avocat du figuier. Et non seulement l'avocat, mais il propose de tout faire pour que ce figuier porte enfin des figues. Jésus nous donne là un des plus beaux et des plus touchants aspects de son ministère. Il se fait notre avocat pour demander au maître de patienter encore. Et il s'engage à nous prodiguer ses soins pour que nous portions du fruit pour le maître. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, 1 Jean 2, verset 1, « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Et il dit cela en rapport avec le péché, si quelqu'un vient à pécher. Et que demande notre avocat vigneron au maître de la vigne ? « S'il te plaît, patiente encore un peu. » Jésus a certainement voulu par là nous faire comprendre un des attributs les plus touchants de la bonté de Dieu. Il est patient. Pierre le dit dans sa deuxième épître, au chapitre 3, verset 9. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Notre second texte que nous avons lu, les versets 10 à 17, de ce même chapitre 13 de Luc, n'est pas une parabole, mais un fait réel que Jésus a vécu un jour de sabbat alors qu'il enseignait dans une synagogue. Une femme se trouvait dans l'assistance, dont l'auteur inspiré nous dit qu'elle était rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. En fait, littéralement, le texte dit ayant un esprit de faiblesse, avec comme conséquence physique qu'elle se tenait courbée, incapable de se redresser. Nous avons tous vu, en particulier les médecins, des personnes affligées par une importante cyphose, les empêchant de se redresser. Médicalement parlant, certaines de ces cyphoses ont des causes organiques tout à fait identifiables, de l'arthrose, certaines formes d'arthrite, l'ostéoporose, tout ça. Mais il existe aussi une curieuse maladie qui affecte essentiellement des femmes que, faute de mieux, les médecins appellent syndrome camptocormique. Chaque fois qu'on met un nom bien compliqué en médecine sur une maladie, ça veut dire qu'on ne sait pas bien ce que c'est. Campto veut dire fléchi, ployé. Ce qui caractérise cette forme de cyphose, c'est qu'elle concerne surtout le rachis cervical, la nuque, à tel point qu'on lui a donné aussi le nom de syndrome de la tête tombante, et qu'elle est curieusement totalement réductible, elle n'est pas fixée, elle n'est pas figée. Dans les articles médicaux à ce sujet, on accuse une faiblesse des muscles érecteurs du rachis, comme si un lien invisible maintenait la personne ainsi courbée. Ce qui est drôle, c'est que ces articles médicaux parlent de faiblesse, tout comme le texte de Luc 13 parle d'un esprit de faiblesse. Un certain nombre de causes bien identifiées peuvent être à l'origine de ce syndrome, comme des troubles hormonaux, certaines maladies inflammatoires et d'autres plus rares. Mais souvent, on ne trouve aucune cause. Ce que les médecins classent dans les causes idiopathiques, ce qui ne veut rien dire, ça veut dire simplement autonome, sans cause première. Je ne sais pas si cette femme avait justement cette maladie, actuellement bien identifiée, bien que toujours très mal expliquée. Une seule chose est certaine, c'est que Luc, dans son récit inspiré, est jésusoniaque. Dans ses récits, il y a toujours un dialogue entre Jésus et le ou les démons, et Jésus ordonne aux démons de partir. Ces récits sont souvent marqués par des manifestations violentes lors de l'exorcisme du démon. Là, rien de tel. Jésus voit cette femme, il l'appelle, il lui dit qu'elle est déliée, il lui impose les mains, et aussitôt elle se redresse et se met à glorifier Dieu. Si l'on s'en tient au texte littéralement, cette femme est dite « ayant un esprit de faiblesse ». Il ne s'agit pas d'un esprit démoniaque, mais bien d'un lien par lequel Satan la tenait courbée. Le mot « esprit » désigne probablement un lien de son esprit à elle. Mais l'auteur de ce lien est bien Satan, qui a mis un certain lien dans l'esprit de cette femme, avec une conséquence physique évidente et particulièrement bien pénible, et certainement bien pénible, cela faisait 18 ans qu'il la tenait ainsi. Jésus est celui qui délie les liens imposés par Satan. Jésus a la puissance de le faire. Jésus désire le faire. Et il le fait. Du fait de sa compassion pour le triste état dans lequel il trouve ses créatures. Nous pouvons avoir foi dans la puissance de Jésus et dans son désir de nous guérir, de nous délier de tout lien qui nous tient courbés. La constatation de notre faiblesse, de ces liens dont nous sommes prisonniers, nous fait souvent désespérer de nous-mêmes. Nous tient courbés dans la culpabilité. Rappelons-nous que ce n'est pas le Seigneur qui nous tient ainsi courbés. C'est l'ennemi de nos âmes. Mais c'est un ennemi vaincu. Le problème, c'est que nous en soyons convaincus. Que nous mettions foi dans la puissance de Jésus, dans son amour pour nous, et que nous acceptions qu'il pose les mains sur notre tête, et que nous le croyons quand il nous dit « Tu es délivré de ton infirmité ». Le prophète Ésaïe avait écrit 7 siècles avant cet épisode. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. David a écrit au psaume 145, versets 14 à 20, j'en lis juste quelques extraits. « Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec loyauté. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs appels au secours et il les sauve. Le Seigneur garde tous ceux qu'il aime. Il a délié cette femme qui était tenue courbée par Satan. Il nous déliera aussi si nous le recherchons avec foi et sincérité. Il en a la puissance et le désir. Il est totalement digne de confiance. Si nous désespérons de nous-mêmes, lui ne désespère pas de ce qu'il veut faire en nous et avec nous. Prions ensemble. Seigneur, merci pour l'amour que tu portes à ta créature. Merci parce que tu t'es fait notre avocat. Tu demandes la patience du Seigneur pour notre faiblesse, pour ces liens qui nous tiennent courbés. Et tu les enlèves. Si nous avons foi en toi, tu les enlèves. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, tu es puissant. Tu es le Dieu d'amour. Nous mettons notre confiance en toi. Et nous te faisons confiance aussi pour vivre une vie de liberté, libérée de ces liens, et que nous redressions tous nos têtes. Dans le nom de Jésus. Amen.